L'oubli, tel est votre destin. Toutes les anciennes leçons de la vie, vous les perdez, vous les gagnez, puis vous les reperdez et vous les regagnez encore. Leto 2. La voix de Darès Balat. Au nom de l'ordre sacré et de son indissoluble communauté, ce compte-rendu a été jugé digne de foi et propre à figurer dans la chronique du chapitre. Taratsa contempla ces mots sur son système de projection avec une légère moue d'écœurement. La lumière du matin mêlait des reflets jaunes à la projection, donnant aux mots un flou mystérieux. D'un mouvement rageur, la mère supérieure écarta son siège de la table de projection, se leva et marcha jusqu'à une fenêtre orientée au sud. Le soleil était encore bas et les ombres très longues dans la cour. Faut-il que j'y aille moi-même ? Elle était réticente à cette pensée. Ces lieux lui donnaient une telle impression de sécurité. Mais c'était stupide de sa part, elle le savait. Même si le Bene Gesserit y était établi depuis 14 siècles, la planète du chapitre ne devait être considérée que comme un havre temporaire. Elle posa sa main gauche sur l'encadrement poli de la fenêtre. Chaque ouverture avait été calculée de manière à orienter l'attention vers une vue splendide. Dans ses proportions, ses couleurs, sa décoration, cette pièce reflétait les efforts des constructeurs et architectes qui avaient œuvré ensemble pour donner aux occupants un sentiment de bien-être et de soutien. Taratsa essaya de s'immerger dans cette atmosphère de sécurité feutrée, mais n'y réussit pas. Les discussions auxquelles elle venait d'assister laissaient dans cette salle des relents d'amertume, malgré le ton sobre sur lequel les mots avaient été prononcés. Ses conseillères s'étaient montrées intraitables, et elle ne pouvait leur donner tort. Nous transformer en missionnaires ? Et pour le compte des Tleilaxu ? Elle appuya sur une plaque qui commandait l'ouverture de la fenêtre. Une brise tiède, parfumée par les pommiers en fleurs du verger voisin, pénétra dans la salle. La communauté des sœurs était fière des fruits qu'elle produisait ici, au centre stratégique de son immense pouvoir. Il n'existait pas de plus beau verger dans toutes les citadelles, dans toutes les succursales du chapitre qui constituait le vaste réseau tissé par le Bene Gesserit à travers la plupart des planètes occupées par les humains sous l'ancien impérium. C'est à leurs fruits que tu les connaîtras. Quelques vieilles religions sont encore capables de sagesse, se dit Taratsa. De son poste d'observation élevé, elle apercevait tout le quartier sud de la cité du chapitre. L'ombre oblique d'une tour de guet voisine se profilait, irrégulière, sur les terrasses et les toits des maisons. Chaque fois qu'elle y pensait, elle se disait qu'il s'agissait d'une bien petite communauté pour une telle concentration de pouvoir. Au-delà des vergers et des jardins fleuris s'étendait un treillis de résidences privées, chacune entourée de son espace vert aux frontières géométriques. Ces domaines privilégiés appartenaient soit à des sœurs à la retraite, soit à des familles loyales sélectionnées. À l'ouest, l'horizon était formé par des montagnes en dents de scie, au sommet souvent couronné de neige luisante. L'astroport se trouvait à une vingtaine de kilomètres à l'est. Autour de ce noyau central du chapitre s'étendaient de vastes plaines où paissait une race particulière de bétail, si sensible aux odeurs des gens que les troupeaux étaient pris de panique et beuglaient à qui mieux mieux à la moindre intrusion de quelqu'un qui n'avait pas l'odeur voulue. Les demeures centrales, avec leur culture entourée de murs, avaient été orientées par un bachar des temps anciens de telle manière que personne ne pouvait circuler de jour comme de nuit sur les voies de communication plates et sinueuses sans être immédiatement repéré. Tout paraissait disposé au hasard, sans plan particulier. Et pourtant, un ordre rigoureux régissait les moindres détails. L'ensemble, se disait Taratsa, était bien à l'image du Bene Gesserit. Quelqu'un se racla la gorge derrière elle, et elle se rappela subitement que l'une de celles qui avait employé au conseil les arguments les plus véhéments attendait patiemment dans l'encadrement de la porte demeurée ouverte. Elle attend de connaître ma décision. La révérende mère Beyonda préconisait l'élimination physique immédiate de la révérende mère Audrade. Aucune décision n'avait encore été prise.
Tu t'es surpassé cette fois-ci, Dar. Je m'attendais à un acte d'indépendance aveugle, je le souhaitais même. Mais ça...
Beyonda
La vieille et grosse Beyonda au visage rougeau, au regard froid, réputée pour sa méchanceté naturelle, voulait faire condamner Odrad pour trahison.
« Le tyran l'aurait immédiatement anéanti »,
avait-elle proclamé. « C'est toute la leçon que nous avons retenue de lui ?» se demanda Taratza. Beyonda avait avancé comme argument que la révérende mère Odrad n'était pas seulement une Atréide, mais aussi une Corino. Il y avait dans sa lignée ancestrale un grand nombre d'empereurs, de vice-régents et d'administrateurs puissants. Avec toute la soif de pouvoir que cela implique pour elle.
Ses ancêtres ont survécu à Salusa Secundus,
ne cessait de répéter Beyonda.
N'avons-nous donc rien appris de nos expériences génétiques?
Nous avons appris à créer des Odrades, se dit Taratza. Après avoir survécu à l'agonie de l'épice, Odrad avait été envoyé sur Al-Danab, l'équivalent de Salusa Secundus, pour y être conditionné sévèrement. La planète n'était faite que de hautes falaises et de précipices arides, de vents brûlants et de tempêtes glaciales, de sécheresses et d'humidité excessive. L'endroit idéal pour mettre à l'épreuve quelqu'un qui serait peut-être destiné plus tard à aller sur Rakis. D'un tel conditionnement, seuls émergeaient des survivants coriaces. Et la grande, souple et athlétique Odrad était l'une des plus coriaces qui fut. Que pourrais-je faire pour sauver la situation? Le message le plus récent d'Odrad disait que toute paix, même les millénaires imposés par le tyran, était entourée d'une fausse aura qui pouvait se révéler fatale à ceux qui lui faisaient trop confiance. Là était à la fois la force et la faiblesse des arguments invoqués par Beyonda.
Taratza tourna la tête vers la conseillère qui attendait à la porte.
Elle est bien trop grasse. C'est presque un défi qu'elle nous jette par sa présence.
Nous ne pouvons pas plus éliminer Odrad que nous ne pouvons éliminer le Gola,
dit la mère supérieure à haute voix. La voix de Beyonda lui parvint, mesurée et toute pleine d'assurance.
Les deux sont devenus beaucoup trop dangereux pour nous.
Voyez comme Odrad vous affaiblit par sa manière de vous rapporter les paroles gravées dans le siège taper.
Vous croyez que le message du tyran m'a affaibli, Bey?
Vous savez bien ce que je veux dire. Les Tleilaxu n'ont aucun sens moral.
Cessez de détourner la conversation, Bey. Vous êtes comme un insecte en train de volter d'une fleur à l'autre. Est-ce que vous sentez vraiment quelque chose?
Les Tleilaxu. Ils ont fabriqué ce Gola pour servir leurs propres fins. Et maintenant, Odrad voudrait que nous...
Vous vous répétez, Bey.
Les Tleilaxu aiment emprunter des raccourcis. Leur point de vue sur la génétique n'est pas le nôtre. Ce n'est pas un point de vue humain. Ils créent des monstres.
Vous en êtes sûr?
Beyonda s'avança dans la salle, contourna la table et se rapprocha de Taratza en lui cachant la niche murale où se trouvait la statuette de Chenoé.
Une alliance avec les prêtres de Rakis, d'accord, mais pas avec le Tleilax.
Ses robes firent entendre un bruit de froissement tandis qu'elle brandissait le poing.
Bey, le grand prêtre est un danseur visage à présent. C'est avec lui que vous voulez faire alliance?
Beyonda secoua rageusement la tête.
Les fidèles de Shai-Hulud sont légion. On les trouve partout. Quelle sera leur attitude envers nous s'ils apprennent un jour le rôle que nous avons joué dans cette supercherie?
Vous vous trompez, Bey. Nous avons fait en sorte que seuls les Tleilaxu soient vulnérables dans cette affaire. Sur ce point précis, c'est Odrad qui a raison.
Ce n'est pas vrai. Si nous faisons alliance avec eux, nous sommes vulnérables au même titre qu'eux. Nous serons obligés de servir les intérêts du Tleilax. Ce sera pis que notre longue soumission au tyran.
L'éclat mauvais qui avait traversé le regard de Beyonda n'échappa guère à Taratza. Elle comprenait du reste sa réaction. Aucune révérende mère ne pouvait évoquer la période de servitude que l'ordre avait endurée du temps de l'Empereur-Dieu sans éprouver au moins un frisson glacé. Jamais le Bene Gesserit, ballotté contre son gré par des forces qui le dépassaient, n'avait été aussi peu sûr de sa survie au jour le jour.
Vous croyez que nous assurerons nos approvisionnements d'épices en concluant une alliance aussi stupide?
Demanda Beyonda. Toujours le même vieil argument, constatait Taratza. Sans le mélange et sans l'agonie de sa transformation, il ne pouvait pas y avoir de révérende mère.
L'un des objectifs visés par les catins de la dispersion était certainement le mélange, c'est-à-dire l'épice plus la maîtrise que le Bene Gesserit avait sur elle. Tarazza retourna à sa table de travail et se laissa tomber dans son canisiège. Elle se pencha en arrière tandis que le dossier s'adaptait à ses formes. C'était un véritable problème, un problème typique du Bene Gesserit. Malgré leurs recherches et leurs expérimentations continuelles, les sœurs n'avaient jamais pu découvrir de produits de substitution. La guilde spatiale avait peut-être besoin du mélange pour transformer ses navigateurs, mais ces derniers n'étaient pas irremplaçables. Les machines Ixiennes pouvaient accomplir leur travail. Les Ixiens et leurs satellites étaient compétitifs sur les marchés de la guilde. Des alternatives existaient. Tandis que nous, n'avons rien. Bayonda contourna le bureau de Tarazza, appuya les deux poings sur la surface brillante et se pencha en avant pour regarder la mer supérieure dans les yeux.
« Et nous ne savons toujours pas ce que les Tleilaxus ont fait à notre Gola.
Odrad le découvrira.
Ce n'est pas une raison pour lui pardonner sa trahison. »
Tarazza parla d'une voix mesurée.
« Il y a des générations et des générations que nous attendons ce moment et vous voudriez faire tout échouer comme ça. »
Elle donna un coup léger de la paume de sa main sur le dessus de la table.
« Le précieux projet rakien n'est plus notre projet, » répliqua Bayonda. « Si cela se trouve, il n'a jamais été le nôtre. »
Concentrant toute la puissance de ses facultés mentales, la mère supérieure réexamina les implications de cet argument familier. La chose était fréquemment revenue sur le tapis au cours de la séance mouvementée qui venait de s'achever. L'affaire du Gola avait-elle reçu son impulsion des mains du tyran en personne? Et si c'était le cas, que fallait-il faire? Que pouvait-on faire? Tout au long du débat, le rapport présenté par la minorité était resté présent dans tous les esprits. Shuang Yu était peut-être morte, mais sa faction survivait et tout se passait comme si Bayonda venait de rejoindre son camp. La communauté des sœurs était-elle donc à ce point aveugle face à la possibilité d'une issue fatale? Le rapport d'Odrad sur ce message caché sur Rakis pouvait être interprété comme un sinistre avertissement. Odrad avait bien mis l'accent là-dessus en décrivant la manière dont son signal d'alarme intérieure l'avait mise en garde. Aucune révérende mère ne pouvait traiter chose pareille à la légère. Bayonda se redressa en croisant les bras sur son opulente poitrine.
« Nous n'échappons jamais complètement aux enseignements que nous avons reçus durant notre enfance, ni à aucune des configurations qui nous ont produites. C'est bien cela ?»
Il s'agissait d'un argument propre au conflit interne du Bene Gesserit. Il rappelait souvent aux sœurs leur vulnérabilité particulière. « Nous sommes une aristocratie secrète, et c'est notre descendance qui hérite du pouvoir. Oui, nous sommes vulnérables à ces choses. » Et le meilleur exemple en est Miles Tegg. Bayonda, qui avait trouvé une chaise, s'assit, les yeux à la même hauteur que ceux de Tarazza.
« Au plus fort moment de la dispersion, »
murmura-t-elle,
« nous avons perdu environ 20% de nos sujets déficients. »«
Ce ne sont pas des déficients qui nous reviennent en ce moment. » »«
Mais le tyran avait certainement prévu que cela se produirait. »
La dispersion était pour lui un objectif en soi, Bey. C'était son sentier d'or, rien de moins que la survie de l'humanité.
Mais nous savons ce qu'il pensait des Tleilaxus. Il aurait très bien pu les exterminer et il ne l'a pas fait.
Il voulait la diversité.
Bayonda frappa du poing sur la table.
Pour ça, on peut dire qu'il est comblé.
Nous n'avons fait que ressasser les mêmes arguments, Bey. Et je ne vois toujours aucun moyen d'échapper à ce qu'a fait Odrad.
La soumission?
Pas du tout. Avons-nous jamais été totalement soumises à l'un quelconque des empereurs qui ont précédé le tyran? Pas même à Mourad Dib.
Nous sommes toujours dans la souricière du tyran,
accusa Bayonda.
Pouvez-vous me dire pourquoi les Tleilaxus n'ont jamais cessé de fabriquer à la chaîne son Gola de prédilection? Ça fait des millénaires que ça dure, et ils continuent à sortir de leur boîte à Xlotl comme un pantin infatigable.
Vous pensez que les Tleilaxus obéiraient encore à une directive secrète du tyran? Si c'est le cas, vous plaidez en faveur d'Odrad. La situation qu'elle a créée se prête admirablement à l'élucidation de ce problème.
Il n'a pas eu de directive à donner. Il a simplement rendu ce gars-là particulièrement attrayant aux yeux des Tleilaxus.
Et pas aux nôtres ?
Mère supérieure, il faut absolument que nous sortions de cette souricière sans attendre et de la manière la plus radicale.
C'est à moi de décider, Bey. Et je penche toujours pour une alliance prudente.
Mettons au moins le gars-là à mort. Shiana aura des enfants. Nous pourrons...
Le point de vue génétique n'est pas et n'a jamais été le seul en cause.
Mais il pourrait le devenir. N'avez-vous pas peur de surestimer l'importance du facteur de préscience dans la lignée Atréide?
Toutes vos suggestions tendent à nous aliéner Akis et le Bene Tleilax, Bey.
Le Bene Gesserit peut tenir 50 générations sur ses réserves actuelles de mélange. Davantage même en se rationnant.
Vous croyez que 50 générations représentent beaucoup, Bey? Ne comprenez-vous pas que c'est ce genre d'attitude, précisément, qui vous empêche d'être assise ici, à ma place?
Beyonda fit reculer sa chaise qui grinça sur le sol. Il était clair qu'elle n'était pas convaincue. Taratza estimait qu'elle ne pouvait plus lui faire confiance. Si quelqu'un devait mourir, ce serait peut-être elle. Et où étaient les nobles fins dans tout ça?
Tout cela ne nous mène à rien, déclara la mère supérieure. Laissez-moi, je vous prie.
Une fois seule, Taratza médita de nouveau sur le rapport d'Odrad. L'avenir s'annonçait sombre. Il n'était pas difficile de comprendre pourquoi la réaction de Beyonda et des autres était si violente. Mais cela témoignait d'un dangereux manque de maîtrise de soi. Le moment n'est pas encore venu pour le Bene Gesserit de rédiger ses dernières volontés. Assez curieusement, Odrad et Beyonda partageaient les mêmes craintes, mais cela les avait conduites à des conclusions radicalement différentes. Interprété par Odrad, le message trouvé parmi les ruines de Rakis était porteur d'un avertissement venu du fond des âges. Tout aura une fin, même cela. Allons-nous connaître maintenant la nôtre, écrasée par les hordes voraces de la dispersion? Mais le secret des cuves Axlotl était presque à portée des sœurs. Si nous obtenons cela, plus rien ne pourra nous arrêter. Elle fit du regard lentement le tour de la salle. Toute la puissance du Bene Gesserit était encore ici. La maison du chapitre demeurait protégée par un fossé de non-vaisseaux. Sa position ne figurait nulle part, excepté dans la tête des intéressés. L'invisibilité totale. Totale, mais temporaire. Un accident pouvait toujours arriver. Elle rejeta les épaules en arrière. Prendre ses précautions, mais ne pas vivre trop dans leur ombre, toujours sur la défensive. Heureusement qu'il y avait pour lutter contre l'ombre la litanie contre la peur. Émanant d'une autre personne qu'Odrad, le message de mise en garde, avec sa manière troublante de dire que le tyran s'occupait toujours de son sentier d'or, aurait été beaucoup moins redoutable. Toujours ce maudit talent des Atréides. Une simple société secrète et rien d'autre. Les dents de Taratza grinçaient de frustration. Les souvenirs ne suffisent pas s'ils ne conduisent à de nobles fins. Et s'il était vrai que la communauté des sœurs était devenue incapable d'entendre la musique de l'existence? Maudit tyran! Il pouvait encore les atteindre. Que cherche-t-il donc à nous dire? Son sentier d'or ne pouvait plus être en danger. La dispersion avait résolu définitivement le problème. Les humains s'étaient déployés dans toutes les directions, comme les piquants d'un porc-épic. Avait-il eu la vision du retour des dispersés? Était-il possible qu'il eût anticipé la présence de ce tapis de ronces sur une partie de son sentier d'or? Il savait que nous nous douterions de la nature de ses pouvoirs. Il le savait très bien. Elle songea aux rapports de plus en plus nombreux qui faisaient état d'égarés retournant à leurs anciennes racines. Il y avait là une remarquable diversité de gens et de techniques, en même temps qu'un goût prononcé pour le secret et même la conspiration. Non-vaisseau de conception originale, armes et réalisations techniques d'une complexité à vous couper le souffle. À peuples différents, technologies différentes. Certaines semblent même étonnamment primitives, à la surface tout au moins. Et il recherchait en réalité beaucoup plus que du mélange. Tarazza n'avait pas de peine à identifier la forme spéciale de mysticisme qui poussait les gens de la dispersion à revenir.
« Nous voulons connaître vos secrets ancestraux. »
Quant au message des honorés matriarches, il était encore plus clair. « Ce dont nous avons besoin, nous le prendrons. » « Et c'est Odrad qui tient tout entre ses mains, » se dit Tarazza. Elle avait Shiana. Bientôt, si Bursmali réussissait, elle aurait aussi le Gola. Elle avait le maître des maîtres du Bene Tleilax. Elle pouvait avoir Raki ses aimants.
Si seulement ce n'était pas une Atréide.
Tarazza reporta un instant son attention sur les mots qui dansaient encore au-dessus de la surface de son bureau.
Il s'agissait d'un tableau comparatif entre le dernier Duncan Idaho et tous ceux qui l'avaient précédé. Chaque nouveau Gola était légèrement différent de ses prédécesseurs. Le fait était clairement établi. Les Tleilaxu cherchaient à améliorer quelque chose. Mais quoi? La clé se trouvait-elle dans ce nouveau modèle de danseur visage? Visiblement, les Tleilaxu voulaient mettre au point des créatures polymorphes indétectables, des imitateurs parfaits, des doubles capables de copier non seulement l'apparence et les souvenirs de leurs victimes, mais aussi leur identité et leurs pensées profondes. C'était là une forme d'immortalité encore plus séduisante que celle dont les maîtres Tleilaxu se servaient jusqu'ici. Et c'était de toute évidence leur objectif principal. Son analyse concordait avec celle de la majorité de ses conseillères. Un tel double deviendrait véritablement la personne qu'il imitait. Les rapports envoyés par Odrad sur le danseur visage qui s'était substitué à Tuek allaient tout à fait dans ce sens. Même un grand maître du Tleilax ne devait pas être nécessairement capable d'arracher aisément un tel polymorphe à son apparence et à son comportement d'emprunt, ni à ses convictions. Maudite Odrad. Elle avait acculé ses sœurs à un mur. Elle n'avait pas d'autre choix que de la suivre, et Odrad le savait. Comment le savait-elle? Encore ce talent erratique? Je ne peux pas agir aveuglément. Il faut absolument que je sache d'abord. Elle refit mentalement la série d'exercices familiers destinés à lui redonner son calme. Elle n'osait pas prendre une décision capitale dans cette humeur de frustration. Elle contempla longuement la statuette de Chenoé et cela l'aida. Elle se leva de son canisiège et retourna devant sa fenêtre favorite. Le paysage qu'elle avait sous les yeux exerçait souvent un effet apaisant sur elle. Les distances semblaient changer avec le mouvement du soleil dans la journée et les variations soigneusement contrôlées des conditions météorologiques de la planète. Elle se sentit soudain l'estomac creux. « Aujourd'hui, je déjeunerai avec les acolytes et les sœurs converses. » Cela lui faisait du bien parfois, de rassembler les jeunes autour d'elle et de les voir perpétuer la tradition commune des repas, avec leurs horaires immuables, matin, midi, soir. Cela formait un ciment à toute épreuve. Tarazza adorait les observer en ces occasions. Elle formait comme une marée évocatrice de mouvements profonds, de forces invisibles et de pouvoirs immenses qui perduraient parce que le Bene Gesserit avait trouvé le moyen de s'insérer dans le flot du temps éternel. Ses pensées eurent pour effet de redonner son équilibre à Tarazza. Elle put prendre un peu de recul par rapport aux questions qui la tracassaient et les examiner sans passion. Le tyran et Odrad avaient raison. Sans les nobles fins, nous ne sommes rien. Il était cependant impossible d'ignorer le fait qu'en l'occurrence, les décisions critiques étaient prises sur Rakis par une personne qui était marquée par les imperfections génétiques récurrentes propres à la lignée des Atréides. Odrad avait toujours manifesté de telles faiblesses. Elle s'était montrée nettement bienveillante envers des acolytes en faute. C'était le genre de comportement qui faisait naître l'affection. Une affection dangereuse et obnubilante. Elle affaiblissait les autres, à qui il fallait alors demander des compensations pour leurs fautes. D'autres sœurs plus fermes devaient prendre les acolytes en main et renforcer leurs points faibles. Bien sûr, Odrad avait contribué à mettre ce point faible en évidence. Il fallait le reconnaître. Peut-être raisonnait-elle ainsi elle-même. Quand elle méditait de cette manière, quelque chose de subtil et d'extrêmement profond infléchissait les perceptions de Tarazza. Elle était forcée de réprimer un violent sentiment de solitude. Cela faisait mal. La mélancolie pouvait être aussi obnubilante que l'affection, ou même l'amour. Taratza et les sœurs attentives de sa mémoire seconde attribuaient ses réactions émotionnelles à une conscience aiguë de sa propre mortalité. Elle se voyait obligée d'affronter le fait qu'un jour, elle ne serait rien de plus qu'une liste de souvenirs dans le cerveau vivant de quelqu'un d'autre. Les souvenirs, mais aussi les découvertes accidentelles l'avaient rendue vulnérable. Juste au moment où elle avait besoin de la totalité de ses facultés. Mais je ne suis pas encore morte. Elle savait ce qu'il fallait faire pour recouvrer ses facultés. Elle connaissait aussi les conséquences. Chaque fois qu'elle sombrait dans ce genre d'humeur, elle en émergeait avec une prise bien plus grande sur l'existence et sur ses propres motifs. D'autres avaient observé ses effets, mais seule Audrade était au courant de la rage qu'elle connaissait alors. La voilà qui monte. Taratza s'aperçut qu'elle était aux prises avec les racines affligeantes de ses frustrations. En plusieurs occasions, Audrade avait clairement identifié le noyau central expliquant le comportement de la mère supérieure. Ce puissant cri de rage contre l'usage que d'autres avaient fait de sa vie. La puissance de cette rage refoulée était ahurissante, même si elle ne pouvait jamais s'exprimer d'une manière libératrice. Il n'était pas question de lui permettre de se vider entièrement. Et cela faisait mal. Et le fait qu'Audrade s'en rende compte rendait la douleur encore plus intense. Ces choses-là accomplissaient parfaitement leur office, naturellement. Les handicaps imposés par le Bene Gesserit avaient un rôle précis à jouer. Ils développaient certains muscles mentaux, ils multipliaient les revêtements calleux dont l'existence ne devait jamais être révélée à une personne extérieure. L'amour était l'une des forces les plus dangereuses de l'univers. Il fallait s'en protéger à tout prix. Une révérende mère ne devait jamais se laisser impliquer dans des relations personnelles, pas même au sein du Bene Gesserit. Simulation, nous jouons le rôle nécessaire grâce auquel nous serons sauvés. Le Bene Gesserit survivra. Combien de temps allait-elle demeurer asservie cette fois-ci? Encore 35 siècles. Qu'ils aillent tous au diable. Même 35 siècles, ce n'était que du provisoire. Elle tourna le dos à sa fenêtre et à sa perspective revigorante. Elle se sentait réellement revigorée. De nouvelles forces montaient en elle. Assez pour surmonter la réticence insidieuse qui l'avait empêchée jusqu'ici de prendre la décision essentielle. J'irai sur Rakis. Elle ne pouvait plus ignorer la source de cette réticence. Je serai peut-être obligé de faire ce que voudrait Beyonda.